voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique en nous permettant de soigner notre corps et parfois notre esprit. Jean-Guillaume Bellier est un chercheur dans différentes approches de la santé, du développement personnel et de la psychothérapie. Dans cette première partie de l'émission, Jean-Guillaume nous emmène à la découverte des livres qui l'inspirent.
En partant de la psychanalyse et les différents courants psychothérapeutiques qui existent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même globalement un courant qui reconnaît l'existence de l'inconscient et qui du coup travaille avec, et toute une autre partie qui dit qu'il n'y a pas d'inconscient ou que s'il y en a, on s'en occupe pas. Et ce qui compte, c'est de renforcer les comportements positifs et de ne pas s'occuper de l'inconscient. Et ça, c'est un clivage assez puissant aujourd'hui. Et la psychanalyse ayant été très critiquée à raison, ben, il est important d'arriver à savoir sur quoi on va aller quand on va en thérapie, avec qu'est-ce que propose le thérapeute. Et donc là, ça permet de s'y retrouver. Donc avec tous les courants qui sont d'inspiration psychanalytique, qui reconnaissent l'existence de l'inconscient et qui vont essayer d'aller le guérir ou en tout cas retrouver les blessures. Et puis tout un autre courant de l'autre côté, qui va être plutôt du côté des cognitivistes ou des comportementalistes, qui s'intéressent pas à cet inconscient, même s'ils savent plus ou moins que ça existe, et qui va nier par exemple le refoulement, l'idée qu'on puisse refouler des émotions du passé.
Là, je suis dans ton salon, avec une chouette bibliothèque. On va peut-être faire un tour, parce que je crois que t'as quand même pas mal potassé la thématique de l'alternatif, de tout ce qui est médecine alternative depuis quelques années. Là.
Bah oui, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, par mes propres parents, et puis par mes propres nécessités personnelles et par ma curiosité insatiable de vouloir comprendre comment ça marche, le psychisme humain. Donc, suivant, en faisant le tour, je commence quand même par les bouquins qui me sont les plus précieux aujourd'hui. C'est ceux de Yann Thibault, qui a écrit trois livres que je trouve remarquables, qui sont une synthèse. Il a appelé l'écologie intérieure. C'en est devenu mon activité. Et il fait une synthèse remarquable de l'ensemble de ces courants, justement, de la psychanalyse jusqu'à tout ce qui va être les questions de spiritualité. Parce que c'est pas évident de s'y retrouver, vu le foisonnement de propositions qui existent aujourd'hui. C'est pas facile de comprendre comment ça marche et ce qui existe. Donc, si tu veux qu'on fasse le tour, voilà.
On va faire le tour et on parlera donc de l'écologie intérieure dans une deuxième partie de l'émission. Tu dis que toi, tu nages dans cet univers-là depuis quelques années déjà. T'as commencé à 22 ou 23 ans. Par quoi t'as commencé au tout début quand tu as commencé à comprendre que l'être humain était bien plus complexe que ce qu'on pouvait penser?
Je sais pas quelles ont été mes premières lectures. Parce que c'est pas forcément des livres que je recommanderais aujourd'hui. J'ai exploré beaucoup de choses. Ça allait du rebirthing, par exemple. Il y a des bouquins en haut là-dessus, tu vois, sur la respiration consciente, le rebirthing, qui étaient très intéressantes, qui m'ont beaucoup appris. Il y a des bouquins sur la PNL, l'analyse transactionnelle. Évidemment, je suis allé dans tout ce qui est Jung et Freud, tu vois, ça fait partie de mes recherches, puisque c'est un peu reprendre la logique historique des découvreurs, de ceux qui ont cherché. Et ensuite, je suis allé vers ce qui existait, ce qui était proposé. Faut imaginer qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on n'avait pas Internet. Donc c'était dans les librairies qu'on allait trouver, et puis la culture se faisait progressivement. Sachant que l'université proposait essentiellement une approche psychanalytique ou une approche cognitivo-comportementaliste. Voilà, donc là, il y a des bouquins qui sont là plutôt, on est plutôt sur le rayon avec des bouquins de thérapie classique. Tu vois, classique. Ils le sont plus aujourd'hui, par exemple. Arthur Janoff, c'est un découvreur. Il a appelé sa thérapie le cri primal parce qu'il se rendait compte qu'en poussant les personnes qui l'accompagnaient dans leur retranchement, à un moment donné, elles retrouvaient des mémoires et un cri qui était celui de la naissance, le premier cri. Et qu'en faisant ça, il y avait des guérisons spectaculaires chez les personnes. Donc, guérir leur névrose, voire des psychoses. Alors aujourd'hui, il est un peu tombé dans l'oubli. Et les thérapeutes qui utilisent ça, fonctionnent d'une manière assez spéciale, puisque les personnes font des cures qui durent un mois, et tous les matins, elles sont en accompagnement avec leur thérapeute. Mais et l'après-midi, elles sont censées rien faire d'autre, ou se reposer, tu vois, et pas être actives. Donc, qui fait ça aujourd'hui? Quelques thérapeutes en France, et un peu aux États-Unis. Mais ça, c'est très décrié, très critiqué, parce que ça a donné naissance à tout un courant de la psychothérapie, qui était une thérapie du défoulement, tu veux, où on criait, où on lâchait ses émotions. Alors, ça correspond à toute une époque que moi, j'ai expérimenté dans mes formations, où on était invité vraiment à pouvoir défouler, lâcher ses tensions, etc. Les thérapies psychocorporelles. Alors, j'ai pas beaucoup de livres là sur les thérapies psychocorporelles. Il y en a qui sont très intéressantes, comme Gerda Boysen. Donc, tu vas en retrouver, tu retrouveras dans ta pérégrination des gens qui se recommandent de ce mouvement-là.
La psychologie biodynamique.
Oui, qui a rien à voir avec la psychologie de Steiner. Hein. Et c'est très très intéressant parce que c'est des thérapies psychocorporelles. Je pourrais les passer en revue, il y en a plein. Il y a aussi tout un courant, moi, qui m'a beaucoup inspiré et à laquelle je me suis formé, c'est la gestalt-thérapie. Donc, c'est encore notre rayon, notre endroit, plutôt par là-bas. Alors là,
oui. Mais le mot générique qui regroupe tous ces courants, c'est le mot thérapie. Tu utilises beaucoup le mot thérapie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une thérapie? Pourquoi est-ce qu'on vient voir un thérapeute?
Oui, alors pourquoi est-ce qu'on va voir effectivement un thérapeute? C'est parce qu'on a d'abord les gens viennent parce qu'ils ont une souffrance, un mal-être profond, et se tournent vers quelqu'un qui lui-même a exploré ses propres blocages, ses propres souffrances et en a guéri. Donc d'où le mot thérapie, c'est pour guérir quelque chose qui est en souffrance, qu'on va considérer comme malade. Alors les gens viennent souvent pour des raisons différentes, soit parce qu'il y a des problèmes de couple, des problèmes avec leurs enfants, des problèmes de maladie, et en fonction ils vont s'orienter vers certains thérapeutes. Sachant que dans notre culture, on va plutôt d'abord chez le médecin, qui est censé pouvoir résoudre tous les problèmes. Sauf que le médecin, normalement, est spécialisé dans des maux plus physiques, et qu'il y a des souffrances qui sont non pas physiques, mais psychiques. Donc on a tout ce courant issu de la psychanalyse qui a montré qu'on avait à guérir des blessures de l'inconscient, des névroses. Et alors, au départ, dans l'histoire, c'est d'abord la psychanalyse qui a été connue, mais qui était réservée à des gens qui avaient les moyens de se payer 3 séances par semaine avec un psychanalyste. Et du coup, l'autre versant de la thérapie, c'est le psychiatre, celui qui est un médecin et qui peut donner des médicaments et qui va diagnostiquer des maladies. Là aussi, c'est un rapport particulier parce que les maladies évoluent selon le temps et selon les époques. Donc certaines affections psychiatriques ne le sont plus. L'étaient à une époque, elles ne sont plus aujourd'hui, comme l'homosexualité, qui est considérée à une époque comme une maladie et qui doit être soignée. Et aujourd'hui, on considère que c'est pas une maladie, c'est un choix des personnes de vivre leur amour et leur sexualité avec les personnes du même sexe.
Mais donc toute la partie psychique a une impact sur le physique. Donc de plus en plus de gens aujourd'hui se rendent compte que le médecin ne suffit pas.
Oui, même beaucoup de médecins le savent et on fait effectivement un lien, il n'y a plus de séparation entre le corps et l'esprit, sachant que les maladies physiques sont souvent, bien souvent, d'origine psychique. J'exclus pas évidemment les problèmes environnementaux de nos sociétés avec les pollutions majeures que nous subissons dans l'eau, dans l'air et dans la nourriture.
En termes de reconnaissance, parce que le médecin, tout le monde connaît, on sait que c'est reconnu par le gouvernement, par l'État français, c'est même remboursé, mais qu'est-ce qu'il en est de la thérapie des différents thérapeutes?
Alors, les psychothérapies menées par un psychiatre sont remboursées, par un médecin aussi. Certaines mutuelles remboursent les psychothérapies menées par des psychologues qui ont suivi le cursus universitaire, mais globalement, c'est hors cadre sécurité sociale, parce que c'est trop foisonnant et que c'est exploratoire. Il y a beaucoup de techniques qui ne sont pas reconnues par l'université et qui ne le seront pas parce qu'elles ne rentrent pas dans le canevas ou dans les idéaux, le cadre de référence. Si on prend les thérapies qui ont recours aux vies antérieures, c'est pas demain la veille que ça sera reconnu par l'université dans la mesure où elles sont dans un cadre matérialiste. Or, beaucoup de thérapeutes ont lâché ce cadre-là. Par exemple, Brian Weiss, qui est un thérapeute, un psychiatre américain, chef de service d'une clinique, qui travaille avec l'hypnose et qui se retrouve avec une patiente qui se met à lui raconter des vies passées. Et il n'arrête pas l'expérience. Il lui a simplement demandé d'où vient votre blocage. Alors, il avait déjà exploré pendant un an toute son enfance, puis il lui demande d'où ça vient dans votre passé. Puis elle se met à lui raconter une vie passée. Et finalement, il a une attitude assez scientifique, il continue l'exploration. Voilà. Et c'est passionnant à lire et à voir. Donc. Mais ça ne rentre pas dans le canevas, pour l'instant, de l'université, puisque ça obligerait à admettre qu'il y a peut-être autre chose qu'une vie uniquement matérielle.
Mais donc c'est vraiment une démarche personnelle de la part d'un médecin, par exemple, de se former à d'autres thérapies pour pouvoir trouver des outils complémentaires pour ses patients.
Oui, complètement, oui.
Et est-ce que ça va dans l'autre sens des thérapeutes qui se dirigent vers la médecine pour pouvoir proposer des soins remboursés ?
Alors, certains peuvent le faire. Moi, ce que j'invite, c'est quand même à avoir connaissance de ce qu'on appelle la psychopathologie. Donc, il y a des modules de formation qui existent quand les gens veulent accompagner. Parce qu'il y a effectivement des dérives dans les thérapies alternatives. Je suis critique sur certaines façons de faire. Par exemple, beaucoup de thérapeutes utilisent leur côté médium pour dire aux personnes ce qu'elles attendent ou ce qu'elles vont vivre. Ils vont leur dire quel métier ils doivent faire ou d'où viennent leurs maladies. Déjà que c'est compliqué de faire confiance à ses propres ressentis, je doute pas du bien fondé, de la bonne volonté des thérapeutes, mais ça rend la chose complexe à mon avis, de définir par l'extérieur ce dont souffre la personne, lui dire « ah ben tel âge vous avez eu telle chose ». Alors souvent ils demandent à tel âge je perçois que vous avez eu un tel blocage. Voilà. Mais souvent l'histoire des personnes sont faites de maltraitance ordinaire, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les gens sont tous très névrosés, mais comme c'est une névrose collective, on ne s'en rend pas compte. C'est parce que les gens souffrent qu'ils sont obligés de se rendre compte des souffrances et de la maltraitance ordinaire. J'ai le bouquin sous la main, c'est pour moi essentiel de lire Alice Miller. Parce qu'elle a montré à quel point même les thérapeutes pouvaient passer à côté des souffrances des personnes qu'ils accompagnaient. Parce que ça allait réveiller leurs propres souffrances. Notamment quand on touche à la maltraitance ordinaire, des claques, des fessées, des insultes, le fait qu'on nie la réalité des enfants, leur réalité, et ben beaucoup de thérapeutes sont passés à côté. Alice Miller nous a mis vraiment en garde contre ça, elle est morte il y a une dizaine d'années, et elle a fait un travail remarquable qui me paraît nécessaire à lire.
Mais en fait, dans ce que j'entends, dans ce que je vois autour de moi, tous ces bouquins, on a tous intérêt à faire un chemin, une thérapie pour pouvoir se sentir mieux, parce qu'on a tous des choses à guérir, on a tous des blessures du passé, on est tous passés par... On a reproduit des cycles, on a tous quelque chose finalement à soigner en nous pour arriver à quoi ? À être heureux ? Ou quel est le but ?
Bah alors oui, c'est ce que je pense. Rares sont les personnes... Enfin, il y a des personnes, si tu veux, on peut être heureux quand on est dans la norme et qu'on a une vie... on peut être heureux sans aller faire de la thérapie. Il y a des enfants qui n'ont pas vécu trop de choses difficiles et donc ils sont à peu près heureux dans leur vie, tant mieux. Mais effectivement, si on sent du mal-être, autant aller s'en occuper. Et pas, pour moi, ne pas être dupe qui a une origine inconsciente. Nier l'inconscient ou renier l'inconscient, parce que c'est très, très fort aujourd'hui avec les thérapies comportementales et cognitivistes qui renient l'apport de la psychanalyse, pour une partie, hein, pas tous les psys sont là-dedans. Ça permet pas forcément d'aller voir à quel point on a été blessé. Et qui a pour moi une nécessité de reconnaître ses blessures et de s'en occuper. Pour répondre à la deuxième partie, pourquoi guérir ? Ben parce que, à mon sens, on en parlera après sur l'écologie intérieure, c'est redevenir qui on est réellement, des êtres réellement puissants comme sont les enfants. Si on est blessé, névrosé, on n'est pas à même de changer le monde. Or, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, à mon avis ? Œuvrer pour que le monde puisse être viable, agréable. Et si on est complètement bloqué, angoissé, flippé de tous les côtés, on se réalise pas, on passe à côté. Or, quand on voit les personnes âgées et qu'on les interroge sur ce qu'elles regrettent de leur vie, c'est souvent des moments où elles auraient pu se réaliser. Donc, dépasser leurs angoisses, leurs peurs. Aller dans une démarche de thérapie, c'est pour moi se donner les moyens de se réaliser. Voilà.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Sacrément courageux aussi quelque part de se lancer sur ce chemin-là, dans un système qui n'est pas du tout fait pour qu'on puisse prendre le temps de savoir qui on est et vers quoi on va.
Bah oui, évidemment.
Tu dis révéler l'être puissant qu'on peut être intérieurement, mais rien n'est fait pour révéler cette puissance-là et amener un mieux-être dans nos sociétés.
Non, mais clairement pas. Ça arrêterait le système dans son délire. Et il y a peut-être des personnes qui de bonne foi, n'ont peut-être pas envie. Oui, effectivement, si tu veux, par exemple, la médicamentation aujourd'hui, c'est une réponse technique, pratique. Les gens souffrent, Par exemple, je prends l'exemple des médicaments. Aujourd'hui, c'est très, je prends des risques à dire que les médicaments, c'est un problème. Mais en même temps, on les présente comme la solution, mais ça évite d'aller chercher les causes des souffrances des personnes, puisque ça, soit ça inhibe les remontées émotionnelles douloureuses, donc ça permet de stabiliser les gens, mais comme vont le faire, comme le ferait l'alcool ou n'importe quelle autre drogue dure, tu vois, ou même le sucre. Alors, ça permet que les gens fassent pas de conneries à ce moment-là, mais ça règle pas le problème de fond.
Et les... Après, il faut différencier les maladies. Quand tu as un rhume, c'est peut-être pas forcément lié à un problème de fond. Ça peut être aussi un virus.
Ça peut être un virus, ou ça peut être, ou ça, tu verras que ça peut être plus compliqué que ça. Ça peut être aussi l'alimentation, voire des manifestations somatiques, psychiques. Mais c'est souvent l'alimentation sur les rhumes, à mon avis. Mais ça peut être plus complexe. On va voir, on verra ça. Mais donc, la médicamentation est une réponse sociale facile qui évite d'aller creuser. Parce qu'aller creuser, c'est quand même aller chercher les causes et vouloir les résoudre. Ça peut se faire, mais globalement, c'est nouveau dans l'humanité. Jusqu'à présent, les humains se sont contentés de quoi ? De prières, tu vois, parce que c'était les religions qui étaient dominantes, ou de rien. Ils ont rien fait, tu vois. Donc les gens restaient avec leurs souffrances, leurs vécus, et les reproduisaient à la limite sur leurs enfants. Et ça fait pas longtemps, hein, une centaine d'années à l'échelle de l'humanité, qu'on se dit peut-être qu'on pourrait faire autrement. Et sinon, dans la plupart des sociétés traditionnelles, il y avait des choses comme le chamanisme qui cherchait à essayer de résoudre les problèmes avec une dimension justement de transcendance ou de spiritualité, mais avec des rituels compliqués, des drogues à prendre, des choses extrêmement bizarres à faire, tu vois, longues à faire. Et puis, pas une approche qui n'était pas forcément scientifique et rigoureuse comme on peut l'avoir maintenant dans notre société.
On continue le tour de ton salon, donc là on est dans la partie plutôt psychologie.
Alors là, pas que, il y a beaucoup d'autres choses. Là par exemple, il y a toute une partie sur la réincarnation. Mais il y a des choses qui sont mélangées, on en retrouvera de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie des gens qui ont exploré ce que c'était que les vies antérieures. Il y en a une petite partie. Il y a une partie sur la question vaccinale, pour ou contre les vaccins qui est là aussi. En haut, c'est toute une partie de bouquins qui vont de la PNL.
PNL.
Alors, programmation neurolinguistique, qui est un courant de la thérapie qui est parti de l'étude de super thérapeutes et qui a filmé. Et ils en ont tiré les règles de fonctionnement de la communication et de comment accompagner. Alors, ça sert autant pour accompagner les personnes en souffrance que pour vendre des voitures. Okay. Ou des divans, ou ce que tu veux. Ce sont des techniques.
Du langage.
Oui, qui ont beaucoup travaillé sur le langage et sur la forme. Ils ne se sont pas trop intéressés à l'inconscient. Puis en bas, c'est tout ce qui va être plutôt les questions de spiritualité, avec toute une série de penseurs. Ça va de Ramana Maharshi à Osho, en passant par Thich Nhat Hanh. Enfin bref, tout ce qui, moi, m'a questionné sur la spiritualité. Puis à l'étage au-dessus, on est sur tous les bouquins de channeling. Le channeling, c'est venu des États-Unis. Ce sont des êtres, des individus, hein, des personnes qui reçoivent sous forme de canalisation, de canal, des communications qui viennent de mondes subtils. Alors c'est très intéressant à lire, et on peut le lire avec un esprit critique, en voyant ce qu'il y a d'intéressant et ce qui n'est pas intéressant dedans.
Mais il faut aussi avoir une sacrée ouverture d'esprit quand on se lance dans le chemin des thérapies, parce qu'on part dans plein d'univers inconnus, qu'on ne connaît pas, dans lesquels on n'a pas été préparé. Et le channeling ou les vies antérieures, c'est aussi de l'ordre de la croyance. Donc la personne sceptique va se fermer toutes ses portes.
Alors, la personne normalement sceptique ne devrait pas, sinon c'est une attitude très religieuse. Moi, j'estime que je suis sceptique et que j'ai des doutes, mais le doute, c'est justement d'explorer ce qui est inconnu pour voir ce qu'il en est. C'est ça l'attitude réellement scientifique. C'est de ne pas fermer la porte sous prétexte que c'est n'importe quoi, avant d'avoir vérifié. Et la vérification peut prendre du temps et on peut arriver à avoir un faisceau de preuves ou d'éléments qui sont intéressants. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire ce pourquoi on a des doutes. C'est ça l'attitude réellement scientifique, avant de jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà.
Qui peut être des fois un moyen de se protéger pour pas faire ce cheminement.
Bah oui, tout à fait. Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est plus rassurant de ne pas chercher, parce que ça nous conforte dans nos idées, dans nos croyances. Et il faut bien voir qu'on a des adhésions à des croyances pour des émotions qui sont refoulés pour des angoisses, parce que remettre en cause ce qu'on croit est très perturbant, donc ça génère des émotions. Et moi, j'ai pas ce problème là j'aime bien aller chercher et confronter les idées. Alors je le fais intérieurement, c'est-à-dire que je lis des choses, et c'est long des fois, ça prend des semaines, parce que les auteurs s'opposent, ils sont pas d'accord, et ça demande de trier.
Et on retrouve des liens entre donc le channeling, la réincarnation, la naturopathie ou l'écologie intérieure dont on parlera tout à l'heure. Il y a des corrélations d'une thérapie à une autre.
Pas forcément. Quand on fait de la naturopathie, on s'occupe du corps et de faire en sorte qu'il soit en bonne santé en lui donnant les meilleurs aliments possibles. C'est plutôt sur le rayon qui est là-bas, si tu veux, on va voir. Il n'y a pas forcément de lien, tu vois, tout ce qui va être naturopathie, ça s'occupe, ça va aller de simplement quelques règles alimentaires de base, jusqu'aux plus aboutis pour moi, qui vont être une alimentation crue. Alors je cherche, il y a La guerre du cru de Claude Burger, par exemple, qui est très intéressant parce qu'il était instinctothérapeute, mais lui-même, il y a des trucs où il était limite puisqu'il a été accusé de pédophilie, à mon avis, à raison, tu vois. Donc ça a discrédité ce qu'il a fait. Or c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, c'est pareil. Est-ce qu'on doit rejeter tout ce qu'il a amené sous prétexte qu'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs ? Par exemple, il est très intéressant, mais il y a un plus récent qui va très loin, c'est Dominique Guyot sur l'éloge du cru, sur une alimentation crudivore. Donc ça, c'est des aspects passionnants sur l'alimentation, mais ça va aller toucher, tu vois, j'ai des bouquins sur l'agriculture biologique, parce que évidemment, si on veut nourrir son corps de manière saine, bah, il faut qu'on ait des aliments sains, donc c'est logique qu'on va vouloir manger bio ou naturel, tu vois, ou avec des aliments en permaculture, ou vivre dans un habitat sain, c'est qu'il y a une logique à tout ça. Voilà, ça c'est l'aspect vraiment, ou connaître les plantes sauvages, tu vois, bref, c'est l'aspect plutôt corporel, alimentaire, qui est très très important, parce que bien souvent on a des intoxications alimentaires qui font qu'on est malade. Et c'est souvent moi ce que je propose, c'est déjà de commencer par la base, c'est comment on mange. Et moi je vois quand je me remets à manger n'importe quoi, donc du cuit ou du gluten ou des choses comme ça, il y a des grandes chances que par la suite je sois pas bien, et voilà, que je sois malade. Alors certains auteurs diront que ça, c'est que psychique, c'est pas vrai, tu vois. Ça dépend de chacun et j'invite chacun à faire ses expériences, mais il me semble que l'épreuve que le cru aide le corps à se régénérer, moi je les ai vérifiées sur moi et sur les gens que j'ai accompagnés. Alors ça pose la question de l'effet placebo dont on parlera après, si tu veux.
Il y a aussi des bouquins qui ont été publiés sur le thème. Tu en as peut-être sur le côté placebo.
Oui, j'en ai aussi là-dessus. Ils sont à notre endroit. Okay. Alors, après, il y a toute une partie...
Avant de continuer ta bibliothèque, on va le faire. Hein, mais j'aimerais que tu me définisses l'être humain. Parce que là, tu parles de la partie physique avec tout ce qui est naturopathie. Donc, on entend souvent ce terme, le côté holistique. Ouais. Donc, définis-moi un être humain, parce qu'il n'y a pas que ce corps.
Oui,
qui est important, ça commence peut-être par ça.
Ouais, c'est une définition un peu que tu m'as donné tout à l'heure. On définit l'être humain comme un ensemble de couches en quelque sorte, mais c'est un peu artificiel, c'est pour mieux comprendre. Il y aurait effectivement le côté physique avec l'alimentation et puis l'aspect corporel, tu vois. Donc il y a toute une partie qui va être dans le massage ou dans l'approche psychocorporelle, qui est par exemple ma formation de base. Donc on va faire cette sphère-là. Puis après, on va avoir la sphère des émotions. Puis on va avoir la sphère psychique, que certains appellent mentale, mais tu verras que ce n'est pas forcément très juste. Et puis il y a la sphère spirituelle, c'est très artificiel, en réalité tout est relié. Donc on les définit on classe comme ça de manière pratique, mais en réalité c'est plus subtil, tout est entremêlé, tout est relié. Donc c'est un tout qu'on dissocie de manière un peu artificielle, et surtout avec un risque d'opposer des éléments les uns aux autres. Par exemple d'opposer la sphère intellectuelle ou mentale, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est une partie de nous. Voilà.
On continue la lecture de ta bibliothèque, donc là on va quitter le côté naturo.
Alors on peut passer sur un autre aspect, c'est l'aspect décodage biologique. C'est toute une partie de personnes qui ont travaillé sur le fait de comprendre comment les maladies étaient liées au psychisme. Alors c'est très décrié, et en médecine alternative c'est plutôt classé en secte ou en dangereux, en chercheur dangereux. Pourtant il y a des tas de médecins qui se sont intéressés, sauf que au lieu de l'explorer de manière... logique, ça a été dénigré. Et alors, à raison, par exemple, hein, je prends le docteur Hammer, qui a ouvert un peu la voie, mais il n'est pas le seul. On peut trouver des bouquins du docteur Moirot, qui a fini misérable, alors qu'il avait amené beaucoup d'informations. Hammer, lui, a amené plein d'informations, plein de recherches sur le lien entre les maladies et le psychisme. Le problème, c'est qu'il a appelé ça « nouvelle médecine germanique », avec des relents antisémites dans certains de ses propos, j'imagine ça a discrédité toutes ses recherches. Mais d'autres ont quand même pris le temps de regarder ce qu'il disait, et c'est très intéressant de voir ce qu'il a trouvé. Sachant que son histoire n'est pas claire, hein. Il a publié une thèse, c'était un chercheur brillant, un médecin brillant, chef de service d'une clinique, et il a été discrédité avant même de pouvoir faire la preuve de ce qu'il voulait. On l'a condamné pour exercice illégal de la médecine, parce qu'il y a eu des gens qui sont morts à la suite de ce qu'il aurait fait. Mais il n'y a pas eu de volonté d'étudier ce qu'il a fait. Parce que ça remettait en cause tout le mythe pasteurien. Ça allait loin. Ça remettait en cause l'idée même de ce que Pasteur avait trouvé. Et il y a des chercheurs qui ont remis en cause même les recherches de Pasteur. Tu vois, donc c'est quand on rentre dans un univers de l'alternative, ça va très loin. Les critiques vont très loin. Et donc d'autres ont continué les recherches en s'inspirant de Pasteur. Donc il y a plein de bouquins là-dessus. Notamment t'as Christian Flech qui a fait des travaux en essayant de se mettre de la distance par rapport à ce qu'avait fait Hammer, en étant beaucoup moins virulent et catégorique, parce que c'est compliqué. Après il y a toute une autre partie sur l'hypnose et qui va plus loin que l'hypnose, parce que l'hypnose n'est qu'un phénomène, qu'un nom donné à un état de transe des personnes transhypnotique, mais qui a été redécouvert par un Anglais qui a piqué tous les travaux de la recherche française du 19e siècle. Et là, il faut aller lire, je vous invite à lire Bertrand May Hust, qui est un historien et un chercheur dans tout ce qui est parapsychologie et justement le magnétisme animal. Le magnétisme animal, c'est le nom antérieur à l'hypnose, où des médecins ont cherché, ont trouvé des choses extraordinaires. Le problème, c'est que leur découverte remettait en cause le matérialisme. Cette idée, selon laquelle nous ne sommes qu'un corps et que notre cerveau génère notre conscience et ça s'arrête là. Sauf que dans leurs expériences, ils ont découvert qu'il y avait de la télépathie, qu'il y avait des phénomènes à distance, des capacités à lire les yeux fermés, enfin des choses absolument incroyables qui remettaient en cause le dogme matérialiste. Et ça, c'est toute l'histoire du 19e siècle qu'a retracé Bertrand May Hust, qui est passionnante. Et l'hypnose est allée beaucoup moins loin dans ses recherches, parce qu'elle est restée dans un cadre médical et matérialiste que l'ont fait les prédécesseurs, voilà, qui sont allés beaucoup plus loin. Il y a un psychologue français qui a fait toute une recherche sur justement la parapsychologie et sur la folie, qui s'appelle Renaud Evrard, qui est un chercheur dans une université tout à fait reconnue, et lui, il est très très intéressant. Parce que c'est là où la thérapie touche à des domaines. Enfin, on touche à des zones où les expériences qui sont faites ne relèvent plus du monde matériel. Quand on va travailler sur certains phénomènes de médiumnité, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et il y a plein de gens qui ont cherché là-dedans, parce qu'on passe dans une. On a une frontière qui est floue entre la thérapie et la spiritualité, ou en tout cas ce qui relève de la transcendance.
Et tout l'aspect quantique dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui.
Alors c'est une façon d'essayer d'expliquer, si tu veux, avec une théorie physique, ce qu'on observe, qui ne s'explique pas par la physique matérialiste. Donc on essaie d'expliquer la création de réalité, par exemple, ou le fait qu'on est un être divin, ou, appelons-le comme ça, enfin, qu'on n'est pas que notre corps. Donc ça essaie de trouver des explications à des processus de guérison, à des processus médiumniques, de télépathie ou de clairvoyance ou de prémonition que le matérialisme refuse d'accepter, parce qu'il y a des chercheurs qui l'ont étudié.
Qu'est-ce qu'on appelle neurosciences ?
Alors, les neurosciences, c'est tout un mouvement qui est assez ancien en réalité, mais qui est parti aujourd'hui, qui est basé sur l'étude du cerveau à partir de l'imagerie cérébrale. Donc, qui observe des mouvements sanguins dans les différentes parties du cerveau et qui essaie d'en tirer des conclusions sur ce que ça fait. Comment vivent les humains, mais alors c'est compliqué parce que c'est toujours une étude qui est faite dans un énorme appareil, donc c'est très limité, c'est de la recherche. Mais c'est très à la mode aujourd'hui parce que ça permettrait d'essayer d'expliquer des phénomènes que les thérapeutes connaissent ou que les chamans connaissaient et avaient déjà explorés. Ça essaie de donner une valeur reproductible, parce que c'est ça la difficulté du matérialisme scientiste aujourd'hui, c'est une science qui veut pouvoir reproduire en laboratoire et qui du coup fait fi de l'expérience des thérapeutes qui ont un contenu, tu vois, une observation clinique, mais c'est pas forcément reproductible. On peut pas mettre tout. Il y a des fois, c'est pas possible d'être dans un IRM, tu vois, et de revivre en processus de guérison.
Jean-Guillaume, donc en fait, cette émission pour le magazine Kaizen est là pour dresser un peu le panel des différentes thérapies alternatives qui existent. Donc on a vu, juste en faisant le tour de ta bibliothèque, qu'il existe plein d'outils pour soigner corps, âme et esprit.
Alors ce que je veux rajouter, c'est que ce que j'ai fait là, c'est un court résumé. Il faut bien te rendre compte que j'ai fait... C'est très court. On pourrait passer 2 heures à expliquer dans le détail les différents courants et les différentes branches qui existent. J'ai pas parlé de plein de courants psychothérapeutiques qui existent ou de courants de guérison. Il y en a tellement. Voilà, j'ai surtout insisté sur le fait qu'il y a aujourd'hui des courants qui travaillent avec l'inconscient et d'autres qui ne s'y intéressent pas et qui veulent uniquement renforcer ce qui est positif. Voilà.
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette diversité. Donc, pour celui qui se pose la question de, OK, j'ai quelque chose, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas heureux, de commencer à faire un premier connaît pas, et de se rendre compte que tout un tas d'outils est là, est présent. Donc aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile d'accéder à l'information, mais des gens sont là pour nous aider, pour nous amener sur un chemin de mieux-être. Voilà, donc on va pas rentrer effectivement dans chacune des thérapies, les décrire, on va s'intéresser à la tienne, à l'écologie intérieure, et on va quitter cette pièce pour monter dans ton bureau.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.